France Inter.
Bonjour,
La bonne étoile ce mercredi au cinéma.
C'est ça.
C'est temps que je revienne. Hein.
C'est ça.
On n'a pas eu les fins de phrase à ce moment-là.
Je suis là, c'est bon. Mais l'émission est tout à l'heure. On était en tapant. Comment ça va, Zabou ?
Ah, ça va très bien.
C'est vrai ?
Bah oui, j'adore venir ici.
Ravi de vous accueillir. Pascal Elbé, ça faisait longtemps, Pascal.
Ouais, bah, ça fait presque deux mois maintenant.
On commençait à s'inquiéter de ne plus vous voir dans cette émission. La bonne étoile. C'est assez délicat de le résumer. On va faire un petit tour de table déjà. On va faire un petit tour de table. Vous êtes-vous déjà fait passer pour quelqu'un d'autre dans votre vie les... Oh là, Bruno Péquy, tu regardes le plafond. C'est...
Il choisit.
Est-ce que je peux dire, ouais, je choisis laquelle
C'est le mec qui est gêné déjà d'entrée.
Est-ce que non, je pense des trucs de me faire passer pour quelqu'un de cultivé alors que pas du tout. Tu vois.
En termes d'identité pure.
Non, je pense pas.
Non, jamais.
Identité pure.
Camille. Je pars pas à faire des faux papiers hein, non plus. Hein, on est juste se faire passer pour quelqu'un d'autre.
Ah bah trop autre chose, Camille.
Non, je réfléchis, je ne crois pas.
C'est vrai qu'on fait pas ça tous les jours, ok,
non,
d'accord. Mais on t'a même pas pris pour quelqu'un dans la rue ou un truc comme ça.
Non,
ok.
Non,
Emma,
non,
si, ouais, moi une fois, c'est la fille.
Pour Superman, peut-être, non.
Peut-être.
Dark Vador.
Une fois, la fille qui me fait les ongles m'a prise pour quelqu'un d'autre et m'a dit alors ça va pas mieux ta mère. Et je dis non. Et je voyais que ça lui faisait du bien de partager ça avec moi. Et donc ça a vraiment duré pendant toute l'heure 15 où j'ai inventé des soucis à ma mère. Et mais ça lui fait plaisir.
Ah, pauvre maman.
Ah, bah ça va.
Elle va très bien, justement.
T'avais peur de lui porter la poisse, ouais.
Leïla ?
Oui.
On t'a pris pour
Dalida.
Non, moi je... Et ça j'adorerais.
C'est vrai, hein.
Ça j'adorerais.
Freddie Mercury aussi.
Pour Dalida. Et Freddie aussi avec la petite moustache quand j'ai pas épilé mon duvet. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'ai toujours fait la blague des soirées. C'est-à-dire qu'il y a la liste et tu lis à l'envers. Donc je me suis fait passer pour beaucoup de gens pour rentrer dans des endroits.
J'adore l'idée.
Il faut que je trouve des prénoms qui correspondent un peu, quoi. Parce que.
Dans la rue, il y a des
trucs. Il y a des trucs pas crédibles, ouais.
Il y a quelques années, il y a un gars dans la rue qui m'arrête et qui me fait « Ah, Smaïn ! Comment ça va ?» Et là, je dis « Bah, ça va bien. » Et il me dit « On peut faire une photo ?» Ouais, donc on fait la photo. Et après, il me tend un papier. Et j'ai dit « Comment vous vous appelez ?» Bon, peu importe, Benoît. Je dis « Voilà, amitié, Benoît. »
Smaïn. Bah oui.
Voilà.
Ça fait plaisir.
Ça fait un heureux. Ah, moi j'ai longtemps cru hein, que c'était.
De Vincent Elbaz. Bonjour.
Attends, alors j'arrive pour vous.
Moi c'est pour ça que j'ai signé parce que je pensais que j'allais bosser avec Smaïn. Il a fallu 11 ans.
On t'a déjà pris ou tu t'es fait passer
pour. Non, mais parfois on sait pas trop qui je suis. Une fois chez le coiffeur, comme ça, c'est pas les ongles, c'est chez le coiffeur. Puis j'étais à RTL à l'époque. Puis le coiffeur me dit ça arrive. Et le coiffeur me dit moi j'écoute plus RTL et tout, parce qu'il me dit qu'est-ce que vous faites ? Je suis à RTL. Elle me dit j'écoute plus RTL parce qu'il y a un mec là. Il m'a dégoûté d'RTL. Et tu sais, je le trouve nul et tout. Je dis ah bon, qui c'est ? C'est Pasturo machin. Il savait pas que, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les webcams, tout ça. On était un peu
caché,
pas identifié. Et j'ai jamais osé dire que.
Bah
que
non, c'était moi. Et là il coupait les cheveux.
Non. Bah, visiblement, il savait que c'est toi vu la coupe qu'il t'a faite. Hein.
Non, mais c'était il y a très longtemps.
Oui.
On va vraiment faire les blagues sur les cheveux.
Ça repousse.
Dagui, tu sais, on a eu des cheveux.
Non, ils sont baisses parce qu'avant on n'était pas sur le physique et maintenant on y est.
Ouais, c'est ça.
On se Nounanis, hein.
Oula.
La piqué. En venant la chemise de tout le monde et les cheveux de tout le monde.
Alors moi non, mais j'aurais dû le faire parce que j'étais en train de m'inscrire à la faculté de musicologie de Mont-Saint-Aignan et je viens pour m'inscrire en maîtrise. Et la dame de l'accueil, vous l'avez déjà votre maîtrise. Ben non, je vais m'inscrire. Ben si, regardez. Et en fait, un type s'appelait pareil que moi l'année d'avant et au lieu de faire
Oldelaf
de demander Olivier Delafosse. Il s'appelait Olivier Delafosse, comme moi. Et au lieu de dire, je veux bien la reprendre, la maîtrise, eh bien, j'ai dû faire. Je me suis inscrit comme un.
T'as été honnête.
J'ai été honnête.
T'as été honnête.
On est sur un malentendu, je pense qu'il a hésité.
Il a déjà été honnête.
Daniel.
Alors moi, c'est il y a très longtemps, c'était déjà à France Inter, c'est l'époque du Fou du Roi avec Stéphane Bern. Ouais. Il y avait un humoriste qui s'appelait Didier Porte. Ouais. Il était comme moi, un peu barbu, et à un moment, je sors.
Plus
un peu
fin, bourru. Plus petit.
Oui, plus petit. Mais il y a une nana qui s'approche de moi qui me fait vous êtes Didier Porte ? Je fais ouais, absolument. Je peux avoir un autographe ? Je mets des gages. Attends, mais enfin et tout. Je fais non, c'est bon, ça va. Je suis en train de me reposer. Allez, dégagez. J'ai tellement aimé.
Elle va donc raconter à tout le monde que alors, Didier Porte.
Ça fait penser à une fois où sur un livre d'or à la fin d'un restaurant aussi, quelqu'un voilà. m'apporte un livre en disant vous pouvez signer s'il vous plaît. Et j'ai écrit c'est l'accueil est désastreux, la bouffe est dégueulasse, on est mal assis et j'ai signé du nom d'un autre animateur très connu.
Oui, je sais qui c'est.
Voilà. Bon,
mais je pourrais le dire.
Non.
C'est pas le moment. Qu'est-ce que tu Zabou. Me donnes
mais si, j'ai croisé tout, Nico ce matin. Il est au courant. Hein, courant.
Zabou, vous êtes déjà fait passer pour quelqu'un d'autre?
En tant qu'actrice, souvent.
Bah oui, c'est
bien joué.
Et dans la vie,
non. Non.
Jamais, ok. Pascal, donc, on vous a pris pour Vincent.
Moi, je signe tous les deux jours Vincent Elbaz. Il m'arrive même de chanter à la place de Patrick Fiori.
Non, mais là, il y a un souci, Patrick Fiori.
C'est une compagnie où on reproduit à peu près le même artiste. Et nous, on est clonés, en fait. Mais moi, je me rappelle d'un truc qu'on m'a raconté. Il y a l'usurpation d'identité, mais il y a l'usurpation aussi identitaire ou des accents. Moi, je me rappelle, sur mon tournage, il y avait un technicien qui m'a raconté qu'il, premier jour de tournage, avec un réalisateur qui a pas inventé le second degré, très sérieux, il était là, et lui, il déconnait dans le couloir en portant quelque chose avec un accent belge. Et là, il y a le réalisateur qui fait « Vous êtes nous de Belgique ?» Et là, il s'est senti coincé. Et il a dit de Namur. Et il m'a dit « Tout le tournage. » C'est vrai. Tout le tournage, il a fait tout un tournage en fait. Avec l'accent belge.
La blague qui finit pas, qui dure des semaines et des semaines.
Ça durait deux mois, il a dû faire le
pire. Il paraît qu'aujourd'hui encore.
La Bonne Étoile, le film est excellent. Il est drôle, il est touchant, il est intelligent. Bref, c'est un film qu'il faut voir, ça sera ce mercredi au cinéma avec Benoît Poulvorde, Audrey Lamy et nos invités, Zabou Breitman et Pascal Albé. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici votre fan numéro 1, Hall de la fan de Zabou et de Pascal.
Je suis fan de Pascal Albé. Il le sait, c'est mon comédien préféré. Quelle chance, il est venu me voir une fois en concert à Paris. C'est quand même au moins déjà une fois de plus que Nagui. Je suis fan de Zabou Breitman. Dès qu'un film est dans l'actu bouillante, c'est que Zabou. C'est rare d'être aussi forte en tant que réal et quand vous jouez. Franchement, en France, il n'y a que vous et Pascal Albé. Et vous êtes ici pour La Bonne Étoile. Youpi. C'est pas un film de Lucien Jean-Baptiste Toski. Un mec qui veut devenir juif en 40. C'est fou, c'est comme Valls qui voulait entrer chez Bayrou. Yes. Oh, je suis fan de vous et de ce type bateau qui, en voulant se planquer, va devenir un héros. On peut tous se demander ce qu'aurait été notre camp en France quand Daniel Morin n'était encore qu'un enfant.
Welcome back.
Si on t'organise une France bien occupée, tu préfères la fuite. Si tu es recherché par des milices sans âme et très antisémites. Si tu réalises que la Navi n'est pas là, que Moulin se soulève, prends le maquis mon gars. Résiste. Sois gentil terroriste, mets des bombes partout, va, les Allemands fait leur un fist. Résiste, oh, explose tous les fascistes, ou fais comme Daniel Morin, viens, et puis deviens humoriste. Oh, je suis fan de vous et je vous avoue que ça me fait vraiment quelque chose quand elle baise à bout. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bien vous à vous avec la bande originale.
Et on peut le voir sur scène.
Ouais, et il n'y a pas 10 minutes, il me manquait encore. Enfin bon, Old Olaf, sorti de l'album Délire Chronique, ce sera le 14 novembre.
Alors, cette bonne étoile, quatrième film en tant que réalisateur qui sort mercredi, Pascal Elbé, La Naissance. Alors, d'après différentes sources, il y a eu deux inspirations qui sont venues pour créer cette histoire. Soit vous êtes au restaurant, vous entendez une discussion à côté sur, ouais, de toute façon, les Juifs, ils ont tout l'argent, ils gagnent tout, ils s'en sortent toujours, et ça vous donne une idée de vous baser là-dessus. Apparemment, c'est ça?
Ouais, enfin, c'est ce que je raconte en promo, en fait. Parce qu'il faut bien aller chercher quelque chose. Non, parce qu'en fait, cette discussion, je l'ai entendue, évidemment. Peut-être
des centaines
pas forcément
de fois.
Mais oui, quand même souvent. Alors, bien souvent, ouais.
C'est se battre contre ces préjugés. Vous avez dit comment en faire un film et comment en rire, finalement, parce que les combattre, malheureusement, ceux qui ont ces idées-là, on va avoir du mal à leur dire qu'ils sont à côté de la plaque. Autant en rire?
Oui. Moi, je me rappelle quand on a essayé de me faire passer des choses dans mon enfance, à travers les films, à travers les histoires, les ouvrages, même en histoire, quand c'était trop frontal au premier degré, je sais que j'ai rien compris à cette histoire de France quand on a essayé de m'enseigner. Je pense que si on fait ce petit pas de côté, moi, je pense souvent aux comédies italiennes quand j'étais plus jeune, qui racontaient des sujets quand même très graves avec cette petite légèreté, mais moi, qui fait que je m'en suis souvenu.
Ouais.
Moi, je pense que, évidemment, aujourd'hui, transmettre l'histoire aux plus jeunes générations, il faut leur amener évidemment l'histoire, mais il faut leur amener aussi ce petit pas de côté qui leur permet de rendre l'histoire respirable et audible. Mmh. Et c'est vrai que moi, je me rappelle de mes premières émotions de cinéma, c'était aussi ces films-là, parce qu'ils me faisaient en même temps réfléchir et en même temps sourire. Qu'on soit pas pris en otage.
Le point de départ, donc, c'est Benoît Poulvorde avec sa femme Audrey Lamy. Benoît Poulvorde, on est sur un champ de bataille, la reconstitution de la guerre extrêmement bien faite et réalisée, où lui, il arrive comme une sorte de héros, de général Leclerc sur son char, mais avec la soupe.
C'est important.
Oui, voilà. Pour nourrir les troupes qui meurent de faim sur le front et qui n'avancent plus. Et lui, aux premières explosions, aux premières balles qui sont tirées, il tombe dans les pommes, c'est-à-dire que clairement, c'est pas
Rambo.
C'est pas son truc. Voilà, c'est pas son truc. Et il rentre chez lui, c'est dans la bande-annonce, donc je ne spoil rien.
Le lendemain.
Il dit à votre ami, c'est ça, je m'attendais à un accueil plus chaleureux. Il lui dit, bon, enfin, t'es quand même parti hier à la guerre. Et puis cette phrase aussi que son fils, la question qu'il lui pose, c'est quoi un déserteur? C'est une autre manière de faire la guerre.
Voilà.
Et arrive la baronne que vous incarnez. Alors là, aussi apparemment un personnage ou des personnages qui ont existé, c'est-à-dire l'aristocratie, qui ont hébergé, aidé, caché les juifs qui étaient...
Résistant.
Oui, absolument. Il y a eu, il y a toujours des gens bien, hein. Toujours, heureusement.
Quel que soit leur rang social.
Bien sûr, c'est une question d'éthique personnelle, de morale. Il y a eu énormément de nobles qui ont planqué des juifs, des résistants dans leur château et qui
accueillaient en même temps dans son château, voilà, les responsables nazis qui étaient sur place, en fait.
Absolument, et qui faisaient bien le job, quoi.
Qui jouait le double, qui jouait le double jeu, c'est-à-dire pour faire la.
Non, mais c'était malin de.
La couverture.
D'être justement tout sourire face aux nazis, après ils te soupçonnent.
Bah, c'est un peu Guitry qui racontait qu'il allait bouffer, enfin pardon, il allait dîner au Ritz avec des dignitaires nazis, c'était pour mieux après les, j'allais dire, les moquer.
Bon. Je sais pas, Guitry.
Sacha, après que vous reveniez ici dans l'émission pour qu'on s'explique. Un peu facile de dire hier soir, j'ai mangé une très bonne foie gras chez Goebbels.
La baronne, c'est pas.
J'ai mangé un foie gras chez Goebbels hier. Et je te jure, c'est pas le personnage. Non, il est pas du tout comme vous croyez. Ce garçon gagne à être connu, même si je ne partage aucune de ses idées. Par contre, j'ai vidé son frigo. Bah oui, bah quand même, c'est Goebbels.
Et cette phrase, tu vas voir, ils vont encore être ceux qui vont les mieux s'en sortir à la fin de cette guerre. C'est-à-dire que c'est de shooter des phrases comme ça. Je me demande si... d'abord, est-ce que vous...
Attends, mais il faut raconter quand même qu'il y a un couple incarné par Benoît Poulvorde et Audrey Lamy.
C'est ce que je viens de dire.
Bah non, mais t'as pas raconté l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils décident de se faire passer pour des juifs.
Ouais,
parce qu'ils estiment que les juifs ont plus de chance et qu'ils s'en sortent mieux. En gros, c'est ça.
Cette émission est très décousue, mais.
Les auditeurs recueillent les morceaux.
Et oui, j'aime bien. C'est le pas de côté.
C'est ça. Donc, c'est l'idée complètement folle, conne de ce type pendant l'occupation qui croit qu'en optant pour une identité juive, il va mieux s'en sortir.
C'est vrai que c'est des choses que j'entends. Moi, j'entends sur le fameux. Et j'ai entendu pour de vrai, une fois. Oui, quelqu'un qui avait beaucoup perdu, qui avait perdu, on va dire, dans un incendie. Et j'ai entendu cette phrase complètement folle de « je me fais pas trop de soucis pour lui, ils s'en sortent, ils, et d'un compas au pluriel, ils s'en sortiront toujours ». C'est fou que ces idées-là perdurent. Qu'est-ce que nous a appris la guerre? Finalement, pas grand-chose à la lumière d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça... C'est, pour un scénariste, c'est un terreau très riche.
Et non, mais il y a Isabelle Wechstein, qui est une avocate, a fait un documentaire justement sur le racisme et l'antisémitisme, et où elle avait des enfants à l'école qui lui disaient « Je n'aime pas les voisins du dessus, ils sont juifs, leur appartement est plus grand. » Elle dit « Tu vis dans un immeuble ?»« Oui, mais tu sais que l'appartement qui est au-dessus, c'est la même taille exactement que le tien. » »« Non, il est plus grand. » C'est-à-dire qu'ils partaient de ce principe-là, avec c'est forcément mieux.
Oui, il y a eu un sondage la semaine dernière où ils ont interviewé des jeunes Français. Et il y a combien de Juifs en France ? Oh, bah, je sais pas. Bon, la fourchette basse, c'était 20%. Fourchette haute, c'était 45%. Donc, je me dis, mais merde, quand même, ils n'ont pas tous des tronches de. Quand je te regarde, Daniel, je suis surpris de tes origines ashkénazes, je me rassure. Je ne les avais pas vues.
Et alors, justement, non, à propos de ressemblance.
On peut pas, on n'estime pas la population, c'est surtout ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas.
C'est pas légal, mais il y a des pourcentages qui circulent quand
après,
même.
Ça dit quelque chose dans la représentation, mais c'est en tête. Voilà.
Vous savez, il y a un truc qui est bizarre aujourd'hui. On parle de ce qu'on appelle. Parce que le vent mauvais est en train de se lever depuis un petit moment, et on parle des Juifs de France. Déjà, il faut reprendre tout du début. Il n'y a pas de Juifs de France. Il y a des Français qui sont juifs dans leur intimité.
Oui.
Il n'y a pas de Juifs de France. Il n'y a pas de musulmans de France. J'avais vu il y a très longtemps, il y avait un reportage pour ou contre les musulmans en France. Je ne peux pas citer le quotidien, mais ça commence par un P, ça finit par un yin. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce sondage? C'est complètement fou d'opposer ça. Alors moi, ça m'interroge toujours. Mmh. Comment aujourd'hui, dans la génération 2.0, où on est dans tous les. Je veux dire, on a une injonction permanente à choisir son camp, à être pour ou c'est contre. Ça. Celui qui n'est pas de votre avis est votre ennemi. Et évidemment, les préjugés, ils ont une autoroute, j'allais dire, pour s'élancer.
Alors justement, à partir de ces préjugés, de se dire, de toute façon, il paraît que si on passe en zone libre, on pourra être logé, nourri, habillé, tout ça gratuit, comme ils sont en période de guerre et de disette. Et c'est drôle, la tête de Drelami qui, au fur et à mesure, l'épouse, dit, mais t'es sûr, mais enfin, t'es trop con, quoi. C'est-à-dire que...
Il est pas super futé.
Voilà.
Non, c'est sûr,
et puis elle veut pas rester trop longtemps sur la photo à côté de lui, tellement elle a honte de lui dans tout ce qu'il dit, dans tous ses comportements. Et puis la tête, j'ai pas le nom de lui. Il est formidable l'acteur qui joue celui qui fait les faux papiers.
Fodjovic.
Il est dingo. Parce que c'est quand ça aussi, on le voit dans la bande-annonce en disant donc. Vous voulez. C'est la première fois que ça lui fait ça.
Mais le mec s'appelle Chevalin, hein, il demande à s'appeler Chevalovitch.
Ah, c'est sûr, c'est pas le couteau le plus aiguisé de la paire. c'est pas lui qu'on va sortir en premier dans le tiroir.
Mais d'ailleurs, quand Pascal me propose le rôle et me fait lire le scénar, je me dis ok, c'est super, le personnage est un peu con, ok, mais comment il va s'en sortir avec ce personnage-là, parce que s'il le condamne complètement, mais c'est Pascal et je le connais, et donc comment il fait ? Et je trouvais que la façon dont il sauve son personnage est absolument magnifique. C'est une leçon d'humanité, sublime.
On vous laisse découvrir justement au cinéma ce mercredi la sortie de ce film, porté donc par Audrey Lamy, Benoît Poulvorde et nos invités Abou Bretman et Pascal LB. Stéphane Vojovic donc joue également à vos côtés. Il y a Pierre Poirot, Camille Sagols, Romy Baratin-Forest, Emmanuel Lepoutre, Jeanne Rosa, Patrick Ligardès, David Talbot, Hugo Becker aussi qui est vachement
en
bien. Mais non, mais tout le monde est tout le monde est super. Et puis surtout, on voit des codes que l'on peut retrouver dans La Grande Vadrouille, dans des grands films comme ça. Il a un petit côté Bourville aussi dans Benoît Poulvorde.
Totalement. Il a cette singularité, surtout cette humanité qui vous permet aussi de jouer avec les curseurs, avec un personnage. Et on peut le faire partir de très bas. Hein, là, il est servi.
C'est ça. Et lui donner une sensibilité qui nous fait pleurer à la fin.
C'est ça. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de ces grands clowns. Et qui nous permettent, et lui et Audrey incarnent ce couple un peu, j'allais dire, terrien, qui on peut faire.
Vous avez écrit en pensant à eux ?
Non, jamais. Il ne faut jamais écrire en pensant. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que.
Merde, je le fais, moi.
C'est vrai ?
Ouais.
T'as écrit en pensant à un acteur ?
Oh, ça m'arrive vachement.
Et quand ça ne fonctionne pas ? Parce qu'à la limite, pourquoi pas ?
Ben voilà, j'ai besoin en fait de m'accrocher à quelqu'un,
à
un rêve. Non.
Jamais.
Non, mais c'est une manière d'avoir une dégaine, une
c'était
voix.
C'était pas
peut-être.
Isabelle Carré et Bernard Campan pour se souvenir des belles choses.
T'avais écrit pour eux.
J'avais pensé à d'autres gens.
À Charles Dino, mais il y avait un qui m'accrochait moins.
Non, mais en fait, moi j'ai toujours pensé que si on écrit pour un acteur, c'est bizarre.
Van de Boomer, je suis d'accord. Pardon.
Écrire pour un acteur et de dire ça fait 6 ans que je pense à toi. Je t'écris ce film en pensant à toi, je t'écris 200 poèmes et j'aimerais bien te rappeler. Et tout de suite, dans la nuit aussi, parce que je pense à toi tout le temps, moi je lui dis, tu sais quoi, tu vas faire avec un autre ton film.
Vous êtes en train de me faire très peur.
Ouais, bah oui, c'est assez flippant. Non, faut se laisser porter comme en lisant un roman.
Alors c'est tellement drôle, la scène par exemple de Benoît Poulvorde qui se dit, il faut que je ressemble à l'extérieur à un juif, et qui prend une caricature de juif, et qui commence, caricature horrible, où il passe pour des monstres, où il commence à se déformer.
Ouais, un Nosferatu, oui.
Tellement drôle. Et au premier contrôle de police, il essaie de redevenir cette caricature vivante.
C'est fou parce qu'en fait, quand on écrit ça dans un coin de sa tête, on se dit, on verra plus tard, mais je pense pas que j'irai pas au bout de cette aventure. Non, je pensais pas aller au bout de cette aventure. Je me suis amusé. Et contre toute attente, je suis en train d'en parler ici, de me dire, le film, il s'est fait.
Ah, il est fait. Et surtout, il est énorme. Il est énorme. Pascal Bravo, c'est vraiment une réussite. Ce film, il est drôle, il est touchant, il est intelligent. Et puis, on en a encore plus besoin. En ce moment, il tombe malheureusement à pic. Ça serait bien que ça tombe à un moment où on dit, c'est fini l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous faites? C'est mort. Mais bon, malheureusement, on est loin. De ce cas de figure.
Non, il peut être encore un peu antisémite jusqu'à la sortie du 12.
Je vous demande 48 heures.
Ne vous retournez pas comme une bête, messieurs, dames. Vous qui écoutez cette radio, s'il vous reste encore un peu d'espoir antisémite, réservez-le, d'accord? N'allez pas me foirer ma sortie.
Voici Bruno Pekin. Est-ce que Bruno, vous n'auriez pas fait un film comme ça?
Eh ben non, justement pas. Alors là, Nagui, ce film, je l'aurais presque pas fait comme ça.
Ah bon, pourquoi?
Non, parce que, on l'a dit, le film parle d'un déserteur, et déserté, j'aurais clairement fait, quoi. Non, après, je dis ça comme si un pays voulait de moi comme soldat, quoi. Tu vois ma carrure et mon courage, tu dis que le meilleur truc que je puisse faire pour ma patrie en temps de guerre, c'est déserter, quoi. Moi, si je déserte, ils envoient personne me chercher, hein. Il m'a dit que la gare la plus proche. Je le sais parce que j'ai grandi en Suisse et là-bas, le service militaire est obligatoire.
Wow.
Ouais, mais au recrutement, ils ont vu mes capacités physiques, ils m'ont dit, bon, toi, t'es pas complètement obligé, quoi. Vous pensez que je suis en France parce que j'ai pas percé en Suisse? Pas du tout, hein, je suis ici en exil. Alors que mon grand-père suisse a fait la guerre.
Hein. Ah oui.
Il était banquier. Alors après, attention, hein, je suis uniquement lâche quand je risque de mourir dans la vie de tous les jours. Non, je fais toujours face à mes obligations avec beaucoup de courage.
Attends, le lendemain de la fête de la rentrée, là, t'es quand même parti très très vite de chez moi, tu voulais même pas rester pour le café?
Oui, non, mais alors là, Camille, c'est parce que ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, je devais préparer la rentrée, tu sais, c'était vraiment exceptionnel.
Bah non, pardon, mais tu m'as dit la même chose à moi, en fait, le lendemain de la fête de fin d'année, alors qu'on était en vacances, ou
non? Oui, non, mais là, en fait, Emma, si tu veux, là, c'était pour toi, parce que c'est pas un vrai début de vacances, si tu vois la gueule de ton collègue au réveil, quoi. Enfin, bref, mesdames, on peut régler ça hors antenne, s'il vous plaît.
Bah, ouais. Non, je suis désolé, mais il faut moi que je te le dise aussi. Hein.
Non, le délai, par contre, non. Ce qui se passe à Cannes, reste à Cannes, de là.
Non, c'était même pas pour ça, moi, je veux juste te dire qu'apparemment, t'as aussi déserté l'écriture de ta chronique, quoi.
Oui, c'est pas faux. Enfin bref, revenons au film et ce personnage joué par Benoît Poulvorde qui demande des faux papiers avec une identité juive dans les années 40. Ça te dit le niveau intellectuel du perso. Hein. Aujourd'hui, ce personnage, il regarderait CNews en se disant « Quand même, ils ont de la chance, les migrants qui traversent en bateau pneumatique, quoi. Ils ont une croisière gratuite en Méditerranée. Allez les enfants, allez sainte pour le paradis !» D'ailleurs, Pascal, l'appel avec Benoît, il devait être sympa. Hein. Hey, j'ai un perso qui est assez lâche pour déserter et assez stupide pour penser que les juifs ont la belle vie pendant la Shoah. J'ai tout de suite pensé à toi. Poulvorde, il devait être là. Attends, et laisse-moi deviner, le casting, c'est un mercredi soir pendant un dîner chez toi? Alors, on l'a dit dans votre film, il y a plusieurs situations dans lesquelles le personnage de Poulvorde doit faire croire qu'il est juif alors qu'il ne l'est pas et faire croire qu'on est quelque chose alors que pas du tout. On l'a déjà tous fait, hein, surtout dans le milieu professionnel. Ah, bah, moi, par exemple, vous pensez que je suis rentré comment sur France Inter? Bah, j'ai fait croire que j'étais juif? Ah, bah, vous croyez que les médias sont contrôlés par... Hein, attends, des milliardaires blancs et chrétiens? Oui, mais pas que. Hein. Dans le service public, c'est qui tire les ficelles? Sûrement pas Kadour et Nagui, ils sont là pour faire diversion.
Oui.
Bah pourquoi est-ce qu'il y a Daniel? Pour mettre de l'ambiance. Regardez sa tronche, c'est pas lui qui va animer la bar mitzvah du petit, quoi, tu vois. Non, lui, il est là pour les surveiller, hein, Daniel Morenstein. Ils sont pas... Prenez garde! Vous écoutez France Inter, il est 11h28, nous sommes le 10 novembre 1942.
Oh, non.
Je n'étais pas sûr de ce passage, hein, mais comme pour mes chroniques, je suis auteur et interprète,
oui.
Et spectateur, des fois, parce qu'il y a comment qui rigole.
Mais... Non,
bah, personne m'a dit que c'était une mauvaise idée de faire des blagues antisémites, quoi. Comment j'aurais pu deviner? Mais bon, vous savez ce que c'est d'être à tous les postes, Pascal. Hein. Vous êtes le réalisateur du film et un des acteurs, car vous êtes dit, je cite, en l'interprétant moi-même, ce serait ça en moins à faire en termes de casting. Voilà, logique et implacable. Hein. On dirait Nagui avec ses émissions, quoi. Qui présente, qui produit, qui lance les sons depuis sa tablette. Le mec veut tout faire, quoi. Heureusement qu'il est sur service public, hein, qu'il a pas carte blanche. Sinon, c'est lui qui chanterait dans Taratata ou qui serait interviewé dans ses émissions de radio. Hein. Mais pour ça que parfois, il pose des questions tellement longues qu'il y a la réponse dedans. Quoi. D'ailleurs, Pascal, j'ai lu dans une interview qu'à la question « Quels sont vos héros ?», vous avez répondu « Ça va de Robert Badinter à Simone Veil, en passant par Nagui. »
Et ben là, on voit le vrai pro, hein. Le mec préparait déjà la tournée promo du film, quoi. Non, mais là, vous abusez, quoi. Entre Bad Inter et Veil. Bon, bah, Nagui, moi, j'ai une question. Hein. Le Panthéon, c'est pour quand?
Putain.
Ah, Zabou, j'ai lu toutes vos interviews. Aucune mention de Nagui. Voilà. Le patron, je dis ça.
C'est
je dis
pudeur,
rien. Hein.
C'est de la pudeur, c'est tout.
Finalement, j'aurais peut-être été meilleur collabo que déserteur. Je sais, cette chronique commence à devenir très longue, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai peur maintenant de rendre l'antenne, d'être confronté à mes collègues d'une part, aux invités, à la direction d'Inter et à Nagui, hein, mon modèle dans la vie et le héros de ma grand-mère. Donc je pense que maintenant, j'ai plus qu'une solution, déserter.
Merci.
Renaud Péqui sur scène les 12 et 13 février à Vevey, c'est en Suisse, au théâtre de la Grenette.
Et oui, parce que les Juifs sont source de problèmes depuis l'Antiquité. Cette phrase aussi est sortie.
Nagui, on t'entend. Hein.
Dans le film. cette phrase est dite dans le film. Et puis alors, j'ai vu une vanne en arrière-plan, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le film. Celle de l'affiche du film.
Oui.
La Fureur de Vivre.
Le Fureur de Vivre. Ouais. Non, c'était toujours ce petit pas de côté. Bon, attention, on fait pas, c'est pas la liste de Schindler, hein, des fois que, bah, remarque, il aurait pas pris Poulevard non plus, hein, pour faire.
Je suis pas sûr.
Et en fait, c'était ce petit décalage, voilà, si on les note, on les note. Et c'est vrai que ça fait partie du plaisir de dire attention.
Et pardon, il y en a beaucoup?
Il y en a quelques-uns comme ça. Bon, il y avait le cochon aussi, hein.
Ah, le cochon, lui, il est très présent.
Le cochon, il est très présent, c'est notre fil rouge.
Il a un rôle.
Fil rouge. Bah, alors,
je m'attendais à ce qu'il soit au générique de fin, sincèrement. Je m'attendais à ce qu'il y ait la petite phrase du.
Mais non, en fait,
du
pour style, tout vous dire, on a une histoire.
Aucun cochon n'a été.
Ah, mais c'est vrai. Si, c'est la seule condition. Mais alors, là, pour le coup, parce que, effectivement, je ne mange pas de porc, comme ça ne vous a pas échappé. C'est la seule condition que j'avais posée, c'était si on prend ce petit cochon. Bon, pour la vérité, je m'étais trompé dans le casting. J'avais d'abord un premier cochon. Il m'avait donné un premier cochon qui était un espèce de croisement avec un mouton et un mammouth. C'était très, non, mais c'est sérieux, très laineux, il était très gras et surtout il était dépressif.
Non, mais à tout quoi est, on voit, qu'un, je cochon, raconte, quoi vrai, on voit hein. Qu'un cochon est dépressif.
Ah,
à
partir de 16h, on le voyait, il était cerné, il avait plus envie d'y aller. Et je suis sérieux, il y a la dresseuse qui m'a dit: Pascal, il est fatigué. Et moi, je l'ai vu, il était quand même sur quatre pattes à bouffer des graines toute la journée. Il me dit, il est fatigué. Alors je commençais à fatiguer de ce cochon. Et un jour, on m'a fait ce cadeau. On m'a fait venir à la cantine. On a ouvert le coffre d'une voiture et on m'a dit, c'est pour toi. Et j'ai vu ce petit cochon qui m'a regardé.
Il est trop beau. Et oui, un cochon de lait, c'est un bébé.
C'est un petit bébé. Alors je l'ai pris dans mes bras, je vais caresser le groin, c'est tout soyeux. Mm-hmm. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que j'avais en tête, c'est ce petit cochon-là. Donc on a dû retourner les scènes avec l'autre.
Non, mais c'est Babe, quoi. C'est-à-dire qu'on a ce code, on a ce code-là.
C'est devenu. Et je lui ai dit, juste la seule condition, vous me le, voilà, si un jour je reviens à Remiremont, ce qui a été fait la semaine dernière, je vais vous laisser ce petit cochon.
Laissez-le en vie.
Laissez-le en vie. Et donc il n'a pas fini.
En broche.
Et le gros cochon, là, il en déprime total.
Le gros cochon. J'ai reçu l'aide d'un huissier, d'un avocat ce matin. Il a pris un agent, il m'attaque. Alors, il a cru que vous ne reconnaissiez pas parce qu'il s'est tondu. Mais il n'a trompé personne, encore une fois. Il n'a trompé personne, on connaît tout à fait son passé de collabo. Alors voilà.
Le film est exactement sur ce ton-là, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces phrases, toutes ces vannes qui existent, et puis une poésie, une sensibilité, notamment, les vannes par exemple sur ne pas manger de cochon, toutes les gaffes faites par Benoît Poulevard qui n'en peut plus, qui a faim, donc dès qu'il voit passer un bout de saucisson, il se jette dessus sans même penser au fait qu'il ait le droit ou pas le droit d'en manger. Il s'échappe avec un juif en disant « ma femme fait un excellent cassoulet
en ayant
totalement oublié la recette du cassoulet.
Et en même temps, pourquoi pas?
Oui, en même temps, pourquoi pas?
C'est pas parce que t'es juif que tu manges pas de porc.
Ah, absolument.
Il y a beaucoup de porc dans le cassoulet.
Oui, mais c'est pas parce que t'es juif que tu manges pas de porc.
Oui.
Même pendant la guerre.
Oui.
Il y a plein d'athées. Mon grand-père mangeait des saucissons.
Super. Ma grand-mère l'appelait Mama Bellota. Je ne peux pas dire mieux.
Et puis c'est juste ces personnes que vous défendez, parce que vous êtes un moment clé, Zabou Wattman, dans cette histoire. C'est-à-dire, vous accueillez, là encore une fois, erreur de
erreur de communication, on va dire, voilà, pour ne pas tout spoiler. Benoît Poulvorde se pointe, il sait plus trop qui il est d'ailleurs, et quand vous le prenez pour un résistant qui vient pour faire exploser des entrepôts de munitions, il a même pas le courage de dire non, je suis juste protégez-moi, je ne suis pas le résistant auquel vous croyez, et il continue. En fait, il va là où on le mène
dans le mensonge.
Ouais, c'est ça, en permanence.
Bah oui, mais enfin c'est vraiment la comédie là, on est dans. Alors ce qui est beau dans cette comédie, c'est qu'évidemment c'est de la comédie parce que c'est sur un drame et parce que ce sont les meilleures comédies quand même de se servir des drames.
De ça fait penser aussi.
Ouais, ça me fait penser à un vieux film de Lou Beach, To Be or Not To Be, où comme ça, c'est une troupe d'acteurs et il y a un mec qui se fait passer pour Hitler. Donc c'est pendant la guerre et il se fait passer pour Hitler et à un moment donné, il arrive, donc il répète parce qu'il se comporte pas bien. Et à un moment donné, il est devant un tableau d'Hitler et le metteur en scène dit mais non, mais tu vois pas, c'est pas du tout comme ça. Ça regarde le tableau. Il dit mais c'est moi sur le tableau. Il y a ce truc d'incarner quelqu'un d'autre, de ce que dit Pascal, du pas de côté où tout à coup c'est tellement violent à raconter qu'effectivement faut le vieil homme et l'enfant, faut Bourville avec la grande vadrouille.
Il y a du Billy Wilder aussi, c'est-à-dire
Billy Wilder.
On est vraiment, c'est rempli de références et c'est du Pascal Elbé. Autrement dit, c'est encore une fois drôle, intelligent et avoir absolument cette bonne étoile arrive le 12 novembre prochain. Voici Camille Lavard.
Alors, nous recevons ce matin deux immenses figures du cinéma français et aujourd'hui, c'est une des plus grandes metteuses en scène du théâtre hexagonal qui nous rejoint grâce à ses créations à la croisée des genres telles que la comédie footballistique Les Fourberies de Papin ou encore Britannicus en Ice. Elle a remporté deux strapontins d'argent et quatre trophées Martin Lamotte. Je veux bien sûr parler d'Angelica Rideau. Bonjour Angelica.
Très bien. On va s'arrêter là, Leïla. Écoutez, je trouve votre proposition intéressante, mais vous êtes encore beaucoup sur le texte. Hein.
Ah, mais beaucoup ça, c'est juste le début de l'interview.
Or, n'oubliez pas qu'un monologue, il ne s'agit pas d'un poème à réciter, mais plutôt d'une avenue à traverser.
Mais alors,
Et là, vous êtes sur le trottoir. Okay. D'accord. Et alors, pardonnez-moi, mais qui est l'auteur du texte que vous tenez entre les mains?
L'interview, là, bah, c'est moi.
Ah oui, donc c'est peut-être ça le problème. Alors, excuse-moi, petite parenthèse, qui s'est occupé de la scéno, là? C'est quand même très rouge, hein? Très rouge. Hein, un petit peu l'impression de jouer dans un Babybel, quoi.
Oui, moi, comme je le disais, vous êtes metteuse en scène au théâtre. On pourrait donc se demander comment alors, vous...
Pardonnez-moi de vous couper, Leïla, même si vous n'êtes pas sans savoir que les interruptions apportent un certain dynamisme au dialogue. Je n'aime pas ce terme de metteuse en scène. Si vous voulez, moi, je ne mets rien en scène. Hein, comment dire Je ne théâtralise pas la vie, non, je vis la théâtralité. J'aurais plutôt tendance à la déposer sur le plateau comme une empreinte fragile du réel sur la peau du visible.
Voilà, justement, voilà. Je voulais vous parler...
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me fournir mes interventions après l'émission, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Je voulais vous parler de la relation assez particulière que vous avez avec les acteurs. D'ailleurs, je crois que vous n'aimez pas vraiment le terme « acteur ».
Effectivement, oui, je trouve le terme parfaitement impropre. Dans acteur, il y a, si vous voulez, cette idée d'action, d'intention, de pensée autonome. Or, c'est absurde. L'acteur n'est clairement pas un être doté de volonté propre. Non, il serait plutôt à mi-chemin entre le bichon maltais et le robot aspirateur.
Donc ça veut dire que les acteurs ne servent à rien.
Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ils sont au contraire absolument essentiels au processus de création. Tout contenu a besoin d'un contenant. Les comédiens sont des réceptacles. Ce sont des récipients, des vases, des bols, des vides-poches. Hein. J'ai moi-même déjà déposé mes clés dans Francis Huster.
Mais précisément, comment est-ce que vous travaillez avec les comédiens?
Enfin, il semblerait que vous n'ayez pas très bien écouté ce que je dis depuis le début. Comment pourrais-je travailler avec ces gens-là? Non, je travaille sur eux.
Sur eux, c'est-à-dire?
Oui, vous savez, il faut arrêter de croire que...
comment dire, faut arrêter de croire que les comédiens, faut arrêter de les voir comme des êtres possédant des droits ou un système nerveux central. Non, un comédien, ce n'est pas un semblable. C'est une surface, hein. C'est un terrain de fouille. Alors, je les arpente, puis je creuse, je gratte, je découvre des choses. Ah, tiens, un trauma d'enfance. Ah, tiens, un syndrome de l'abandon. Ah, tiens, un kyste. Ah,
c'est vraiment horrible.
Parfaitement. Mais vous savez,
c'est horrible.
Vous savez, comme je dis souvent, le bonheur empêche la performance. Un acteur heureux, c'est un acteur stérile. Avec moi, jouer, je dirais que ça laisse des cicatrices.
Mmh. Vous voulez parler de cicatrices émotionnelles ?
Oui, aussi.
Okay. Est-ce que vous pourriez plutôt nous parler de votre dernière création ?
Avec joie. Il s'agit d'une adaptation de Cyrano de Bergerac. Mmh. Et alors, j'insiste sur l'idée d'adaptation parce que j'ai vraiment dérangé... Lapsus. J'ai dégenré notamment le rôle de Cyrano, qui est interprété par une jeune comédienne que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Camille Lavard.
Oui, bien sûr, on la connaît. Comment est-ce que vous l'avez choisie ?
Écoutez, pour être tout à fait honnête, au début, bon, j'étais pas vraiment convaincue. Et puis, elle s'est mise de profil. Et là, révélation. Là, j'ai vu Cyrano. J'ai vu Cyrano. Je l'ai vu.
Ah oui, vraiment.
Oui. Ah bah vraiment. Écoutez, avec ce qu'on a économisé comme prothèse, je vais pouvoir réserver 30 dates au Luzernaire.
Eh bien, on a hâte ça, hein, de voir ça. Merci beaucoup, Angelica, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Oui, merci à moi, ainsi qu'aux subventions régionales. Merci.
Yeah, bravo.
Merci, Leïla.
Cyrano de Bergerac.
Tellement France Inter.
C'est Angelica.
Tellement France Inter.
Rideau.
France Culture.
Oui. C'est vrai.
La musique du film. Alors, quand on fait une comédie, la musique est un des personnages essentiels. Vous avez voulu qu'elle soit à la fois poétique et entraînante. Comment vous avez choisi la musique ?
Alors, c'est vrai que quand on fait une tragicomédie, la musique, évidemment, je reprends souvent cette phrase de Sergio Leone qui disait la musique, c'est l'âme du personnage. Mmh. Comment restituer une tragicomédie sans être ni dans le drame ni dans la légèreté d'une comédie. Il fallait trouver cet entre-deux et je me suis beaucoup influencé sur la musique de La Vie est Belle qui m'a accompagné, que j'avais posé sur les premières images et qui marchait bien. De Benigni, pardon.
Ouais, c'est parce que
voilà,
pas
celle de Capra, celle de Benigni. Okay. Et c'est vrai que je rends hommage à ces deux musiciens qui s'appellent Romain Allender et Valentin Quino, qui on a galéré, on a ramé. Mais il fallait trouver cette petite mélancolie joyeuse, voilà.
Et voilà. Et un peu entraînante aussi, par moment, La Bonne Étoile, ça c'est la BO du film, avec Audrey Lamy, Zabou Breitman, Benoît Poulvorde et Pascal Elbé, entre autres. Nous recevrons tout à l'heure Laurent Meltz, qui est historien, et pour parler justement de ce qui se passait en France avec les juifs français, ou les juifs qui vivaient en France. On va parler de musique et dans vos vies, Zabou Breitman, vous écoutiez en 85-87 ? Madonna, et elle faisait quoi, Zabou, à ce moment-là ?
Elle chantait Adélaïde.
Eh oui.
Avec un tour. Oui, mais tellement.
Oui, c'est moi.
Mais oui.
Là, c'est elle.
C'est fou.
Mais oui.
Mais tellement, je m'en rappelle tellement maintenant.
Tu es amoureux de moi ?
Mais grave.
Non, avec cette voix un peu susurrée comme ça, avec ce petit souffle dans la voix.
Oui, parce que je ne sais pas chanter. Tous les chanteurs et les chanteuses qui ne savent pas chanter, ils chantent comme ça sur le souffle.
On dit c'est souffle.
Ça m'appelle quelqu'un. Non, mais
c'est un truc d'actrice ou pas ?
C'est un truc d'actrice qui ne sait pas chanter. C'est
parce que j'ai l'impression que les actrices chantent beaucoup comme ça.
Non, c'est celles qui ne savent pas chanter qui chantent.
Ok, pardon.
C'est ça. Comment vous vous retrouvez à enregistrer cette chanson, Adélaïde ?
Parce que, alors.
Avec Arnaud Turboust.
Oui, alors c'est drôle parce qu'Arnold vient de me recontacter. On s'est jamais perdu complètement de vue. Mais j'étais dans la bande de d'Arnold. Non,
pas de van. C'est le prénom de
Arnold.
Pas Arnold et Willy.
C'est ça. Mais moi, je trouvais que. Oui, d'accord.
Vas-y. Oui.
Non, c'est Arnold Turboust.
Et c'était la bande d'Étienne Dao. Et j'étais copine avec cette petite bande-là. Et un jour, Arnold me dit j'ai fait un menuet moderne. Enfin, voilà, moderne de 80. Hein, qui est déjà un menuet ancien, donc pour le coup. Et qui. Et il me dit est-ce que tu veux faire. Je dis oui. De toute façon, je dis oui. Hein, je suis contente. Je dis oui, mais d'accord. Et là, récemment, d'ailleurs, il faut que je le rappelle. Pardon, Arnold, je ne t'ai pas rappelé. Il va faire un album. Il m'a demandé si je voulais chanter sur un des touches. Je dis bah oui. Et donc, je chanterai comme ça.
Yes, très bien. Ça sent le taratata.
Pascal LB, vous chantiez. Vous chantiez. Vous écoutiez, pardon.
Oui.
Au baiser de ma bouche.
Jeudi.
Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche.
Pourquoi cette chanson correspond à votre bac? Pourquoi?
Parce que je l'écoutais un peu en boucle pour me donner un peu de force. Avant, j'avais des notes.
Ouais, c'est vrai que ça remonte le moral.
C'est, voilà, c'est ce que je me suis dit. Deux jours après, je me suis suicidé. Et heureusement pour vous, je me suis raté.
Et vous chantez ou pas? Vous savez chanter?
Non. On m'a proposé. Tellement pas.
C'est vrai?
Ah non, faut même pas essayer.
On vous a proposé de chanter?
Ouais, même des films et tout, en comédie musicale.
Même avec du travail.
Alors j'ai chanté, j'ai fait une fois une chanson, qui est d'ailleurs pas mal du tout, mais alors évidemment comme ça.
On y arrive.
Bah, comme Zabou, bah en fait ils vous font faire avec les boutons, ils vous font chanter. À la fin j'étais Bocelli quoi. C'est une arnaque absolue.
Et vous débarquez à Paris dans les années 80, c'est ça, à peu près milieu des années 80.
Oui. Oui.
Avec quelle ambition et quelle envie?
Je voulais quitter mon Strasbourg où j'ai grandi. D'ailleurs, je reviens là-bas avec beaucoup de plaisir, mais je voulais.
Le film a été tourné dans le Grand Est.
Oui, il a été tourné dans le Grand Est, dans les Vosges. Mmh. Et j'avais envie de. Bah oui, j'avais envie de tenter l'aventure de Paris. Je rêvais de faire du théâtre. Et quand j'étais plus jeune, vu ma situation, mon entourage et mon milieu et mon éducation, je ne m'autorisais pas la légitimité, en tout cas, à faire le concours d'entrée du TNS, qui était le théâtre national de Strasbourg.
Super.
Voilà. Alors que j'habite à côté, mais évidemment, quand on vient de province, on s'estime pas légitime de tout ça. Donc, je suis parti à Paris pour me dire peut-être que là-bas, je vais peut-être essayer d'y arriver.
Et vous commencez à écrire déjà très tôt.
J'ai quasiment écrit tout de suite. C'était, j'allais dire, la seule façon que j'avais trouvé d'aller vers l'autre.
Oui.
C'est un prof de théâtre, ça, qui vous a dit si vous
n'avez pas de rôle, n'attends pas les retours de casting et tout ça. Et puis j'avais une tête, j'avais des cheveux comme ça. Il m'a dit, bon, laisse tomber le côté acting. et j'ai commencé très vite à écrire. C'était vraiment le provincial qui avait besoin d'aller vers l'autre. Quoi.
Zabou, en 96, vous écoutiez, 98. One time. Les Fugees. Killing Me Softly. Vous avez raison d'arrêter la chanson, Pascal. C'est pas votre truc.
Et qu'appelle Tracker Tommy.
Chanteur de 1.
Et Zabou, à ce moment-là, devient Zabou Bretman.
Absolument. Vous prenez votre nom?
Ouais. 97 ou 98, oui, j'étais au théâtre. La première fois, c'était au théâtre du Rond-Point. J'ai vu l'affiche, ça m'a vraiment bouleversée, parce qu'il y avait mon nom en entier. Et c'était, je jouais La jeune fille et la mort d'Ariel Dorfman, mis en scène par Daniel Benoît. C'est un magnifique, magnifique texte, un magnifique spectacle sur la justice, le bourreau et la victime. C'est exactement ça, ça parle de ça.
Et vous avez découvert que Ariel Dorfman avait un point commun avec votre famille.
Incroyable, ouais, il est venu voir le spectacle, puisque c'était la France a été le dernier pays, alors qu'il a été réfugié chilien en France, a été le dernier pays à jouer son spectacle, et on avait dîné. Après le spectacle, et il m'a dit que ses parents venaient, comme mes arrière-grands-parents, de Kishinev, et j'ai découvert aussi de Kharkiv. Ils venaient aussi de Kharkiv, les miens. Mais ils viennent du même endroit, ouais. C'est drôle.
Dans cette même période, 96-98, Pascal LB, vous écoutiez Nougaro. Et ça démarre aussi pour Pascal à ce moment-là.
Oui, premier rôle devant la caméra de Gérard Jugnot dans Fallait pas, avec pour partenaire de caravane Jean-Yann.
Ah oui.
C'est pas mal.
Ah, c'était une rencontre. C'est un des tout premiers qui m'a ouvert la porte. Dans ce métier.
Ça veut dire caravane, la porte,
oui. Sa caravane.
Sa caravane, la porte de sa caravane.
C'est quoi ouvrir une porte dans ce métier?
Pardon?
C'est quoi ouvrir une porte dans ce métier?
Ouvrir une porte, c'est tendre la main aux jeunes générations. C'est accueillir avec bienveillance.
Non, mais elle connaît l'expression. Ce qu'elle veut dire concrètement, ça veut dire quoi?
Ouvrir la porte, c'est l'action de ouvrir.
Elle parle très bien français,
une porte, qui est un élément de bois.
Évidemment, vous n'étiez pas lifté.
comment ça s'est passé le
tu prends la poignée, tu baisses la poignée, puis tu tiens la
poignée. Ouvrir cet élément vertical, souvent fait de bois.
Rattrape-toi.
Parfois d'acier qu'on appelle
je vous ai laissé faire.
Rattrape-toi. Ouais, elle a rien dit, elle a été très classe.
Oui, c'est vrai. Alors, votre question pour résumer, c'était quoi?
Non, c'est rien.
Alors, non, mais Jean-Yann, en tout cas, Jean-Yann, quand je lui ai ouvert la porte, c'est. Et voilà, c'est quelqu'un qui vous accueillait, qui faisait semblant de vous écouter. En tout cas, il a donné l'impression que
mais ça s'est passé comment? Comment ça s'est démarré? Qui a fait quoi?
Concrètement.
Alors, c'est. Il m'a, alors,
merci, Zabou.
Comment c'est. Ah, pardon, j'avais pas compris.
Bah oui.
En fait, Jean-Yann, il m'a.
Vous, Français, comprenez
il m'a dégrossi, il m'a appris l'histoire de France.
Ah, l'histoire de France. Ah, ok.
Ouais, non, vraiment, c'est un puits de culture, Jean-Yann. Il avait une connaissance absolue. Et pendant ces trois nuits où on a tourné, ça a été un voyage dans le temps. Il m'a raconté vraiment toute l'histoire de France. Comme ça, en résumé, c'était quelqu'un que j'adorais. J'aimais beaucoup.
Avec un œil toujours pétillant et le sourire au coin de
la lèvre. Ah oui, il habitait à Bali. La moitié de l'année, il était à Bali. Ouais, et il était très heureux. Il avait un petit enfant. En fait, il a été emporté, en fait, c'était pas le bon moment. Il était encore beaucoup trop jeune pour ce qu'il avait à dire. C'était assez étrange, ouais.
La Bonne Étoile sort ce mercredi au cinéma. Pascal Elbé en est l'auteur, le réalisateur, l'interprète aux côtés de Benoît Poulevard-Audrey. L'ami est Zabou Breitman qui est notre invité. Laurent et pas Roland. Mels sont et là. Bonjour. Ils sont les deux. Roland et Laurent sont tous les deux là.
Ils sont plusieurs.
Laurent, vous êtes historien, co-auteur.
Oui,
Non, en fait, c'est même un troisième prénom. Roland, c'est un de mes frères. Laurent, je le connais pas. Moi, c'est Renaud.
C'est Renaud.
Vous pouvez dire Laurent, ça renvoie. Bienvenue. Il y a un très talentueux comme Laurent Joly.
C'est-à-dire que sur mon papier, il y a marqué Laurent. Et à l'antenne, tout à l'heure, j'ai dit Roland. Et on me dit.
Mais bien essayé, quand même, trois pour rien.
Et après, on parle de changement d'identité.
C'est ça, on est sur le changement
du film.
Merci de rétablir.
Renaud, donc.
Bienvenue.
Bon, Jean-Louis, alors.
Je vais vous appeler Monsieur Mels, comme ça.
Si vous voulez.
Voilà. Les gens qui se font passer pour juifs pendant la guerre, c'est une vanne ou ça a vraiment existé?
Alors, c'est à la fois une vanne, c'est le principe du film, mais ça a aussi existé d'une façon provocatrice, mais finalement assez heureuse et vertueuse. C'est-à-dire qu'au moment où on impose aux juifs de mettre dans la zone occupée une étoile, il y a des Français qui ont tellement honte qui, par sympathie, choisissent de se coudre une étoile, de s'en mettre une, et ils vont mal finir, en général.
Alors, sans mettre une, je suis pas sûr que la phrase soit...
Mais il y a un cas complètement dingue.
Mais est-ce que c'est pas produit aussi au Maroc? Il n'y a pas eu, par solidarité pour les Juifs
Alors, au Maroc, c'est différent, parce qu'il n'y a pas l'étoile jaune, il n'y a pas le...
Il n'y a pas l'occupant.
Mais ce qui se passe de plus fou, c'est un cas qui est un peu connu, qui commence à être connu, c'est Adélaïde Oval, qui est une psychiatre protestante alsacienne, qui est partie, comme beaucoup d'Alsaciens, dans le sud-ouest de la France, qui, pour des raisons X ou Y administratives, passe un jour la ligne de démarcation sans Ausweis, se retrouve en prison. Normalement, c'est 3 semaines et c'est réglé. Un jour, on jette, ça se passe au moment où on commence à introduire l'étoile jaune, elle n'en a jamais vu, elle est dans la zone dite libre, en fait, non occupée. C'est en zone occupée que ça se passe. On jette dans sa prison à Orléans, ou à Bourges, je crois qu'elle est déjà à Orléans, une juive roumaine, qui a une étoile, qui fait que pleurer. Elle sait pas quoi faire pour lui exprimer sa compassion. Elle choisit de se bricoler une étoile jaune. Les Allemands lui disent, ah, vous êtes juive? Alors elle dit, non, je suis pas juif, mais je sympathise, vous pouvez pas faire ça. Eh ben, rétractez-vous tout de suite ou vous partez. Ça sera pas la même histoire. Normalement, vous partez dans 15 jours.
Fou.
Elle dit, non, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. C'est ma conscience qui m'impose de dire que ce que vous faites n'est pas possible. Et elle finit Auschwitz. Et l'histoire est complètement dingue, parce qu'à Auschwitz, elle finit, et les médecins, par être réquisitionnés par les équipes des atroces médecins nazis comme Mengele, qui lui dit, maintenant, il va falloir faire des opérations bizarres sur des jumeaux, on va tenter des choses. Elle dit, ah non. Et les coéquipiers de Mengele disent, il faut la forcer. Et Mengele dit, je sais pas quoi faire. Elle dit non. Et donc, c'est dans des temps troublés, la preuve qu'on peut parfois dire non.
Elle a quand même seul caractère, cette nana.
Elle a un sacré caractère. Elle continuera à
prendre. On a toujours le choix de la réponse que l'on...
Je sais pas si on a toujours le choix. Elle avait une éducation, elle avait une colonne vertébrale, elle avait une idéologie qui était plus de la morale personnelle, à vrai dire, que l'idéologie.
Et elle ressort vivante des camps? Elle ressort vivante?
Elle ressort vivante, elle est morte en 88.
Okay.
Elle recroise plein d'autres histoires, parce que sa vie est absolument fabuleuse et très inspirante.
Voilà, idée de film.
Être déportée par empathie, si, j'avais jamais entendu ça.
Ouais. Si, si, il y en a. Bah, si, il y a une. Pendant la, à la Comédie Française, il y a une habilleuse qui a suivi cette jeune actrice de la Comédie Française, dont. Qui avait un nom à consonance non sémite, enfin oui. Voilà. Mm-hmm. Mais parce que c'était sa mère. Or, c'est par la mère qu'on est mm-hmm. juif. Eh bien, là, son habilleuse. Puisqu'ils avaient des habilleuses attitrées, s'est fait déporter avec elle.
Ah, c'est bouleversant.
Mais ça aurait pu être un début de film tout aussi.
En ouais, fait, absolument.
Pour pas faire de peine à l'autre, on épouse sa cause et on se
l'empathie
retrouve.
L'empathie totale, quoi.
Ça aurait pu être un départ de film.
Elle est dans une angoisse absolue. Elle sait pas jusqu'où ça va la mener. Oui,
pourquoi j'ai pas réfléchi avant de faire ce truc là, de bonne étoile de merde.
Parlons des justes, de ceux qui justement.
Elle est juste, justement. Adélaïde Oval, elle va être la deuxième femme reconnue comme juste parmi les nations. C'est curieux qu'elle soit oubliée. Est-ce que c'est le fait que ce soit une femme, elle était très discrète. Elle a été remobilisée une fois après la guerre pendant un procès où un affreux a attaqué pour diffamation un témoignage qui attestait que c'était un affreux dans les camps. Et il avait un peu raison sur les chiffres, mais il avait tort dans l'esprit puisqu'il avait fait des choses horribles, même s'il avait été responsable de moins de morts. Donc elle est venue témoigner, donc elle sort de l'anonymat très ponctuellement après-guerre. Mais oui. Voilà, c'est une juste parmi les nations.
Et les justes, Pascal a tenu à ce que ce soit une femme qui porte ce rôle, parce que les femmes avaient aussi cette présence en tant que juste, elles étaient...
C'est difficile de faire des catégories. Il y a plein de mobilisations pour différentes raisons. Il y a des mobilisations confessionnelles. Je vous ai dit qu'Adélie Deval, elle est protestante.
Surtout, il y avait plus de femmes qui restaient aussi.
Alors oui, c'est vrai qu'il y avait un million de prisonniers et plus même d'hommes qui n'étaient plus là. Donc c'est vrai que statistiquement, il y avait un peu plus de femmes que d'hommes à ce moment-là. Il y a eu des protestations de tout genre sur le sens masculin-féminin, de tous les milieux, de toutes les confessions. Donc, je pense effectivement longtemps, même si c'est plus le cas, les femmes ont été un peu invisibilisées dans la résistance.
Ah oui.
Il y a toute une historiographie actuellement, Guillaume Pollack par exemple, qui travaille pour mettre en valeur
la résistance au féminin, femmes. Oui, Charlotte Delbault, il y a plein de femmes comme ça.
Oui, Charlotte Corday, Aubrac, c'est pour ça que je voulais que...
Que ce soit une femme qui soit juste, c'est joué par Zabou.
Oui.
Vous êtes co-auteur de Vichy, Histoire d'une dictature de 40 à 44 aux éditions Talendier.
D'où le Laurent, qui est dirigé par Laurent Joly. C'est peut-être pour ça que vous avez fait le petit lapsus.
Sûrement pour ça.
Oh, vous êtes gentil, vous trouvez des excuses à Nagui.
Alors qu'il n'en a aucune. La disparition des derniers témoins directs, c'est un moment clé aussi de la période que l'on est en train de vivre. Il faut travailler, transmettre cette mémoire le plus possible.
Oui, il y a. Moi, j'aime pas trop l'expression devoir de mémoire. Je crois qu'il y a un devoir d'histoire.
J'ai pas
non, vous l'avez pas dit, mais moi, je pense qu'il y a un devoir d'histoire et qu'on a là un matériau effectivement qu'il faut récolter très précieusement et qu'il l'a déjà été. Il y a eu des grandes campagnes, heureusement, d'entretien. C'est vrai que l'histoire orale, c'est très riche d'enseignements. Il y a des tas de choses, surtout sur ces sujets-là. Où les archives sont parfois un peu lacunaires. C'est très important d'avoir des témoignages.
Est-ce que c'est très documenté quand même?
Alors, il y a toujours des chantiers. Moi, quand je vais à une émission comme ça, j'ai toujours peur d'une question un peu naïve, candide, qui mette le doigt sur des trous encore de la connaissance. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, malgré une historiographie très abondante.
Renaud Maeltz, merci beaucoup d'être venu.
Passionnant.
Et mes amitiés à votre famille.
À Laurent.
Voilà, la famille Vichy, Histoire d'une dictature, 40-44 aux éditions Talendier. Voici Emma Beaujean.
Ah oui, tout le monde. Alors, tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage aux bonnes nouvelles.
Ah.
Voilà, notamment parce qu'avec mon mec, on a beaucoup réfléchi, on a vachement avancé, on a enfin franchi le pas et je suis enceinte. Enceinte de l'idée de faire un enfant plus tard, quand ce sera le bon moment et que le monde aura cessé de brûler. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, non? Voilà, c'est un petit chaud-froid, ça se fait beaucoup, notamment avec une technique, la fameuse technique de j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une technique très connue à Radio France. Ah, mais tu veux être dans l'émission de Leïla et Nagui? Tu vois où sont nos locaux? Voilà, c'était la mauvaise nouvelle. Tu vois, par exemple, quand j'étais petite et que mon père était malade, son état s'améliorait jamais. On avait souvent droit à la fameuse bonne et mauvaise nouvelle. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les cellules cancéreuses se sont déplacées dans le foie et celui-ci a immédiatement cessé de fonctionner. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Ben, papa est jaune fluo.
C'est marrant, non?
Ouais, c'est hilarant.
De toute façon, les bonnes nouvelles comme ça, il n'y a pas moyen de les annoncer correctement, les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas faire ça quand on quitte quelqu'un. Il n'y a pas une bonne manière de l'annoncer. On ne peut pas dire « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». Si, je l'ai fait. Reconstitution. Allez. Julien, je t'ai donné rendez-vous dans ce bar car j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi, je commence par la mauvaise. Ok, bah, c'est plus comme avant. Dès que je dis un truc, tu vas de ton petit commentaire. Commence par la mauvaise nouvelle. Ça me rend folle, Julien. J'en ai marre. En fait, je veux reprendre ma liberté. T'es toxique, Julien. T'es un mec toxique, d'accord? Tout le temps à me faire des cadeaux comme si tu voulais contrôler ce que j'ai, ce que je fais. Des petits messages plein de sous-entendus, là. Bonne nuit, ma chérie, bisous. Ma chérie, bisous. Tu me possèdes? Mais c'est quoi la suite? Ma pute, Julien, c'est ça que tu vas me dire? Alors ça dégage. Moi, j'ai des projets, j'ai une carrière. Je connais Old Olaf. Mais si, Old Olaf, tu sais, c'est le mec qui joue de la guitare, là. Mais si, mais dans la bande originale, avec Leila et Nagui, je suis fan. Mais si, enfin, c'est tout le temps un petit peu la même chose. Mais ah, tu vois, tu fais encore semblant de t'intéresser à ce que je fais. Pervers narcissique. Ouais, c'est ici les deux spritz. Et la bonne nouvelle, Julien, c'est que tu me manques déjà. Voilà. Et que j'aimerais bien qu'on se revoie ce soir. Est-ce que tu peux venir chez moi? Mais tu peux pas rester dormir parce que je te rappelle qu'on n'est plus ensemble. Boring. Bon, et alors, une vraie bonne nouvelle, hein, quand il n'y a pas de revers de la médaille, on est d'accord que c'est trop kiffant. Par exemple, si je dis j'ai une bonne nouvelle pour toi, Leïla, il y a une nouvelle librairie qui va ouvrir en bas de chez toi. Ah. Pas mal, non? Ouais. Ou si je dis j'ai une bonne nouvelle, Nagui, ouais. Ton comptable est sorti de prison. et il n'a pas parlé. Alors, ou par exemple, j'ai une bonne nouvelle, Old Olaf, on t'a trouvé une famille d'accueil. Non, par contre, vous savez quoi? J'ai une vraie bonne nouvelle. J'ai passé ma fin de semaine complètement malade et en allant chez le médecin, quand il m'a demandé si je voulais un mot pour le travail, j'ai dit non, pas besoin. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est lundi midi et je suis contente d'être au travail. C'est pas une dinguerie. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai écrit cette chronique un dimanche soir sans blouse du dimanche soir. Et c'est à cette vraie bonne nouvelle que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Sur ce au Mathurin, les vendredis à 21h, si je ne m'abuse.
Absolument, merci voilà. Daniel.
Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler après les infos?
Du Pas-de-Calais, une histoire sympa de cadavre sans tête retrouvé dans un bois, sauf que ce n'était pas un cadavre sans tête.
Ah. Zabou Boitman et Pascal Albé sont nos invités. On les retrouve après les infos de midi pour La Bonne Étoile qui sort mercredi au cinéma. La bande originale avec Leïla, Cadeau Rudetti, avec Camille Lava, Emma Beaujean, Bruno Becquin, Aude Delave, Tanguy Pastureau, oui. Daniel Morin.
Bonjour Bruno.
Et nos invités, Zabou Bretagne et Pascal Albé.
Oui. La bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
On est en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jean Chevalin, joué par Benoît Poulvorde, a peur de la guerre. En une journée, il tombe dans les pommes dès qu'il entend une balle ou une explosion. Il est déserteur. Il fuit. Sa famille vit dans la misère. Donc, il trouve qu'une seule solution, puisque la rumeur dit les Juifs sont les plus riches, ils s'en sortiront de toute façon, tu verras, même après cette guerre. Ils sont hébergés, nourris, logés, blanchis. Devenons Juifs. Et il change ses papiers pour devenir juif. Et ce qui donne dans la bande-annonce un petit votre regard, Pascal Elbé, sur Benoît Poulvorde, non mais je sais que je suis juif depuis peu. Ah, c'est pas de bol, parce que c'est vraiment bien un moment où il faut pas le savoir. C'est à ce moment-là. Et puis, de quiproquo en mélange d'identité, il se retrouve hébergé par Zabou Breitman, par la baronne. Ça vous va bien, le titre de baronne, moi,
J'ai adoré être baronne. Je vais peut-être devenir baronne.
Ouais, non, je sais pas.
Faut que je trouve un baron, donc c'est ça.
Le port de coup, non.
Non.
2025.
Plus besoin.
Et puis cette baronne, elle fait partie de ces justes. Elle fait partie de ceux qui aident les résistants, qui protègent les juifs qui ont besoin de passer en zone libre, et puis qui est complice de certains attentats pour ralentir. En tout cas, la progression des nazis. Beaucoup de malentendus, si vous me permettez cette expression.
Mais je vous en prie.
Pascal,
beaucoup de quoi?
Malentendus.
Ah oui.
Vous aimez ça, les malentendus.
C'est pas dingo non plus, comme expression.
Non, mais c'est très personnel.
Ouais, ouais. Ah d'accord.
Qui vont se battre sur les préjugés, parce que c'est ça aussi le point du film. Et puis, il y a énormément de poésie. Il y a beaucoup de tendresse.
Ah oui, c'est vrai que mélanger tout ça et ne jamais oublier le regard de l'enfance, voilà. Il faut que C'est moi, ce qui m'avait assez choqué d'ailleurs quand on a tourné le film, on a reconstitué une place d'un hôtel de ville avec des énormes calicots nazis. Et puis, quand il y a une centaine de figurants qui battaient le pavé comme ça, j'ai vu le regard des enfants dans le village. Et même moi, j'ai dû regarder vite où était ma caméra parce qu'il fallait que je me rassure. Mmh. Parce que tout d'un coup, on a beau être dans un film, c'est une reconstitution historique. D'un coup, l'histoire vous dépasse, elle est vraiment passée. Et de voir ça, franchement, ça a été pour moi un peu vertigineux.
Non, et puis surtout quand on voit la montée des populismes partout et même les Elon Musk qui, à la tribune aux États-Unis, font des signes nazis ou ont des sorties néo-nazis.
Il y a un revival, là.
On se dit que c'est quand même fou, comme si on avait pas compris, quoi, encore.
Qu'est-ce que nous apprend cette guerre? C'est pour ça que c'est important, comme le monsieur que vous avez reçu tout à l'heure, de remettre toujours un coup de projecteur sur notre histoire, la grande histoire. C'est notre socle.
Et là, on parle des nazis, évidemment, ça paraît évident et le problème, c'est l'antisémitisme aussi, c'est-à-dire que certains diront, mais moi, je suis pas du tout nazi, attention, quelle horreur. Non. Par contre, les juifs, il y en a beaucoup trop, bien sûr, et ainsi de suite, et puis ça va repartir, quoi.
Mais en fait, si on nous pousse dans nos retranchements, on est tous avec nos réserves, nos peurs et on a tous cette tendance très naturelle à se replier et à se dire que finalement la faute revient à l'autre. On a tous ça en nous. Quand j'étais plus jeune, on m'a fait des raccourcis aussi sur les Espagnols, sur les Italiens. On va pas le dire maintenant, mais sur les Noirs, évidemment.
Faut regarder certaines chaînes de télévision aujourd'hui pour voir la ligne éditoriale.
Je ne ferai pas de politique. Non. Ne me lancez pas sur ce débat-là. Je sais que vous êtes une chaîne de radio très à droite, mais ne me lancez pas sur ce terrain-là parce que je trouve que c'est toujours malaisant de prendre parti. Je préfère être au centre et totalement suisse comme notre camarade. Mais pour revenir à...
Et autant en rire pour faire passer aussi ces messages un peu d'ouverture d'esprit.
Oui, parce que, vous savez, si on le dit de façon trop appuyée, trop frontale, j'ai l'impression que je sors de ma mission de clown. J'aime pas quand dans un film, par exemple, le metteur en scène fait parler les personnages avec son discours et leur impose quelque chose aux chausse-pieds. Je trouve que c'est bien d'avoir cette grammaire de cinéma qui nous permet de suggérer, souvent avec le sourire, ce petit pas de côté qui fait que... On sait bien que quand on affronte en duel quelqu'un,
La joute verbale.
La joute verbale, dans une joute verbale, avec ce qu'on dit aujourd'hui, les punchlines. Quelqu'un qui fait une joute verbale, on peut être terriblement blessé parce qu'il a fait une meilleure vanne que vous. Mais au moins c'est une vanne, au moins c'est de l'humour, au moins c'est quelque chose qui peut nous faire sourire. Il faut être beau joueur. Aujourd'hui, on est tellement dans le premier degré. On a importé ça aussi, d'Amérique, mais le second degré ici, évidemment, ici, c'est la maison mère du second degré. Formidable, tant mieux, préservons cette liberté. Mais ce premier degré aujourd'hui, c'est complètement fou qu'il faut à chaque fois se justifier. Quand on dit quelque chose, tout est pris au premier degré. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, la défaite de la pensée. N'est-ce pas, Daniel ?
Absolument.
Merci, Daniel.
Pensée et Daniel dans la même phrase, je suis choqué, moi. Zabou Bretman, Audrey, l'ami, vous voulez rajouter quelque chose, Zabou, à tout ce que vient de dire Pascal?
Non, j'adore Pascal et j'adore comment il parle de tout ça parce que vous avez vu, même quand il dit les choses qui sont aussi du premier degré, il y a toujours du second degré dedans.
Il ne peut pas s'empêcher. Ouais.
Non, et c'est merveilleux. Ouais. J'adore.
Benoît Poulvord, Audrey Lamy vous accompagne, Zabou et Pascal, dans ce film. La Bonne Étoile, c'est mercredi, c'est à voir absolument, encore une fois. Allez-y en famille, c'est drôle, c'est un vrai moment de plaisir. J'avais la chance d'être dans une salle avec des enfants et entendre des enfants éclater.
Tu n'as plus le droit d'approcher les enfants qui viennent de...
J'ai la clé de mon bracelet.
C'est ça.
Et avoir des éclats de rire d'enfants, il n'y a rien de plus magique. Et c'est une réussite. La Bonne Étoile, mercredi au cinéma. Voici Tanguy.
La semaine dernière, notre ami Daniel Morin était absent parce que ici, c'est lui qui fait son planning. Hein. Il n'en a plus rien à faire. Un jour, il va venir à l'heure du goûter. On sera obligé de décaler l'émission à 16h pour lui. Tout ça pour vous dire que Daniel est passé à côté de la polémique Chine, hein, puisqu'il était au Venezuela dans le cadre de la croisière France Inter LFI. Hein, il fait sur scène un duo Good Cop, Bad Cop avec Mathilde Panot qui fait sensation auprès du public âgé. Daniel, cher collègue, vous avez donc raté l'affaire des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. C'est Chine qui vendait ça depuis la marque a ouvert une boutique
boutique OBHV et ça cartonne. Hein. Ouais. Les pauvres n'ont décidément aucune morale. Moi, tant pis, je m'engage. Je suis contre les poupées sexuelles pour pédocriminels. Mais ce matin, Oldelaf m'a dit, tu sais qu'il y en a aussi à l'effigie d'adultes. Parce qu'en fait, c'est un marché énorme. 15% des adultes américains possèdent une poupée sexuelle. C'est comme un conjoint, sauf qu'on zappe tout ce qui est conversation. Hein, aimes-tu mon velouté parce que j'ai mis de la patate douce en plus du poireau? Bon, tout ça, il n'y a pas besoin de le dire. On prend sa poupée, on y fait l'amour et on va se coucher. Pour le secteur du velouté de légumes, c'est préjudiciable, mais on gagne du temps. Bref, il y a des millions de poupées sexuelles en circulation. L'autre jour au café, il y avait un type silencieux qui bougeait pas, il avait la peau ferme. Je me suis dit, c'est une poupée sexuelle, ça se voit, il a zéro réaction. Mais alors, quand je lui ai tiré les cheveux pour qu'il se cambre, en lui donnant des petites claques sur le flanc, j'ai vu que non, parce qu'il s'est mis à crier, oui, qui êtes-vous, espèce de malade? J'ai répondu, je suis Tariq Ramadan, tant qu'à faire, autant charger quelqu'un qui est déjà condamné pour ce genre de choses. Les poupées sexuelles, ça a évolué parce qu'avant, vous vous souvenez, il y avait les poupées gonflables, hein, des sortes de bouées canards sans canard. Hein, il fallait pas avoir le poil trop dru parce qu'elles explosaient et tu retrouvais avec sur le sexe un truc qui ressemblait au ballon de la fête des gosses à McDo, ça faisait mauvais genre. Mais là, c'est très ressemblant, il y a tout, il y a blanc, asiatique, noir, par contre, que des jeunes. C'est-à-dire que Daniel, par exemple, on n'a rien pu faire sur lui la semaine dernière, donc là, il prend. Hein. Daniel, une poupée d'une femme de 25 ans. Bah, ça va pas l'intéresser, il en a 50 de plus.
Non.
Donc il lui faudrait une poupée de vieille dame, avec un Yorkshire. Oui. Et quand on appuie dessus, elle dirait Cyril Ferraud, je rêve d'en faire mon gendre. Ça collerait plus. Là, c'est comme si le seul fantasme commun, c'était la jeune fille mince. Mais l'autre jour, je parle pour moi, j'ai revu Michel Cotta à la télé. Bon, elle a 88 ans. Pourtant, je suis pas mitterrandiste. Mais moi qui aime l'expérience, j'ai dit à Bruno Péquy, tu vois, Bruno, une poupée de Michel Cotta, ça aurait du chien. Parce que quand tu parles de Michel Cotta, tu dis pas, ça serait le kiff, quoi. Bruno Péquy était chez moi dans le d'un don de sang, parce que je bois son hémoglobine pour rester jeune éternellement. Et hier, en tapant poupée sexuelle sur Google, je suis tombé sur un article de La Voix du Nord. Jeudi, dans le Pas-de-Calais, un éleveur cherchait l'un de ses veaux qui s'était échappé et qui s'était dit « je vais tout tenter pour pas finir en blanquette ». Il cherchait Hugo Clément, son sauveur, en beuglant tous les beaux gosses en t-shirt immaculé qui voyaient leur sauter dessus. Quoi. Et là, l'éleveur découvre un cadavre sans tête. J'imagine qu'il hurle. Moi, c'est ce que je ferais si je découvrais un cadavre sans tête. Et même avec tête. Et même si je découpe juste une oreille, je hurle. J'aurais fait un très mauvais pote de Van Gogh. L'éleveur appelle les secours, arrive pompiers, plongeurs, gendarmes et SAMU. Hein, et j'imagine qu'il y a France 3 derrière qui commence à prendre des images pour un meurtre à Montreuil-sur-Mer. Et en fait, c'était pas un cadavre, mais une poupée sexuelle. Vous voyez, il y a cette phrase dans l'article, l'illusion a été trahie par une tige en métal qui sortait du cou de la poupée. Et en effet, c'est assez rare qu'un être humain ait une tige dans le cou. Hein, déjà parce qu'au portique à métaux à l'aéroport, ce serait compliqué à gérer, même à l'injure. C'était une raideur naturelle, il n'avait pas de tige. Il s'agissait donc d'une poupée sexuelle dont la culotte et le collant étaient baissés et qui a été abandonnée dans un sous-bois, ce qui reste pas super rassurant. Et même si c'était une peluche de Winnie l'ourson avec son polo rouge relevé, ça serait effrayant. Oui, Winnie l'ourson a un polo et pas de slip. Déjà, ça sent le personnage malsain, comme Donald. Alors que Mickey a une culotte, mais est torse nu. Enfin, Walt Disney, il était dans un délire particulier. Hein. C'était Bétarame avec des animaux. Ça ressemble plus à un club de nudistes hésitants qui a des héros à montrer à des kids, quoi. Mais vous voyez où je veux en venir? C'est que même dans le Pas-de-Calais, où on peut s'attendre à trouver des cadavres sans tête. Enfin, moi, je connais bien, bon, bah, une journée où je vois que des gens vivants avec des têtes, je me dis, tiens, il manque un truc pour être dans l'ambiance du département. Et bah, même là, ce sont des poupées sexuelles qui ont grand remplacé les cadavres sans tête. Mais attendez, c'est pas un acte isolé. En octobre dernier, un promeneur avait déjà trouvé une poupée sexuelle abandonnée en forêt. Lui aussi pensait que c'était un cadavre. Et bah, je vous le donne en 1500. C'est comme je vous le donne en 1000, mais avec l'inflation. Quoi. Il s'agissait là aussi d'une poupée sexuelle et c'était également dans le Pas-de-Calais. En fait, là-bas, une personne sur deux, c'est une poupée sexuelle. Brigitte et Emmanuel Macron qui sont mariés au Touquet, Pas-de-Calais. Si ça se trouve, c'était des poupées sexuelles. Hein, comme Emmanuel a, depuis qu'il est né, la rigidité cadavérique de son arrière-papy, on s'est dit, il bouge pas, bon, c'est lui, mais c'était sans doute une poupée. Et puis, regardez la nouvelle génération, Jordan Bardella, Sarah Gnafo, Yann Brossa, le communiste, ils sont aussi sexy que des bûchettes de chèvre quand on a envie de partir sur une pizza 4 fromages. Boris Vallot avec sa mèche de poète, on craint. Vous voyez, en fait, toute cette époque étrange où, à cause d'Instagram, ben, on vit une époque bizarre où on ressemble tous de plus en plus à des poupées sexuelles et où, pourtant, on se retrouve à en acheter. Une chronique drôle, une fin à méditer.
Oh, wow.
Merci. Oh. Tanguy Pastoureau.
Il sera où
Tanguy le 6 décembre? Il sera dans le Pas-de-Calais, il sera au Touquet. Profitez-en.
En une pièce, oui. Hein, en une pièce.
Ah, ça,
la bonne étoile avec des situations totalement folles. Est-ce que vous vous êtes interdit quand même 2-3 vannes en disant non, ça je peux pas? Ou est-ce que c'est sans limite, Pascal Hébé, quand vous avez écrit le film?
Non, parce que c'est écrit avec évidemment toute la sincérité du propos. Non, j'avais pas des choses qui me... Non, si je me les interdisais, que c'était, c'est parce que ou c'était pas drôle, ou en fait, en réalité, ça plaidait contre ma cause, mais non, je me suis interdit.
Mais par exemple, les collabos français qui peignent des étoiles sur les commerces.
Les étoiles de Noël.
Tellement drôle. À 5 branches et pas à 6 branches. Tellement
oui, c'est ça,
drôle.
Parce qu'on leur a demandé de peindre des étoiles. Et
les Russes sont meilleurs pour faire les étoiles.
Ça. Ils me disent, pourquoi pas des boules avec des guirlandes aussi? Ils me disent, je sais pas, moi je suis pas juif. Moi non plus, abruti. À peu près, la suspicion vient de l'autre côté. Ouais.
Ouais. Extrêmement drôle ce film, le point de départ, un déserteur se dit finalement autant me faire passer pour juif comme ça où je serai nourri, logé, blanchi et tu verras qu'à la fin de cette guerre c'est encore eux qui s'en sortiront le mieux. Des phrases qui sont totalement dingues, affolantes, et c'est drôle de voir même tous ceux autour qui le regardent en disant mais t'es fou quoi, s'il y a bien un moment où il faut pas, sans parler de la confesse aussi que l'on voit dans la bande-annonce où je crois en Dieu un peu moins depuis que je suis juif. Ce film s'appelle La Bonne Étoile. Il sort ce mercredi au cinéma avec Zabou Breitman, Pascal Hébé qui sont des invités, également donc Benoît Poulvorde, Audrey Lamy, Louis Douce Lagorge, Pierre Poirot, Camille Issa-Gols, Romy Baratin Forest, Emmanuel Lepoutre, Jeanne Rosa, Patrick Ligarde, David Talbot, Hugo Becker, Alexia Stefanovic, Émilie Gavoacan, Philippe Huchon, Eugène Hagueleux et Stéphane Vojovic, pardon, formidable en
mais merci de les citer tous, parce que
c'est vraiment chouette.
C'est la moindre des choses.
Bravo.
D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche un film sorti le 22 octobre qui fait l'objet d'une injustice de la part d'un géant du numérique. Savez-vous de quel film il s'agit?
Il est attaqué par un géant du numérique?
Non, il y a une sorte de préjudice qui a été occasionné à cause.
C'est un film qui était annoncé interdit aux moins de 18 ans, alors que c'est pas le cas.
Exactement. Film dont on a parlé ici, on a reçu la réalisatrice.
Et c'est épouvantable parce qu'en fait, ça a empêché des gens d'y aller.
Absolument.
La petite dernière.
Absolument. Explication, La petite dernière, ce film
qui cartonne.
Alors voilà, la question, c'est que en fait, dans le moteur de recherche de Google, il a été indiqué interdit aux moins de 18 ans. Le distributeur Ad Vitam, il s'est rendu compte en fait de la méprise, a de nombreuses reprises contacté Google, qui n'a pas corrigé tout de suite. Google a mis 15 jours pour la sortie d'un film.
Ils n'ont pas Internet.
Ils n'ont pas.
Le débit.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait?
Alors il n'y a pas d'explication à part dire que l'algorithme, une fois que c'était enclenché, c'était compliqué ensuite à récupérer.
Pas.
Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont mis 15 jours à rectifier l'erreur? Parce qu'ils disent c'est une fiche. Vraisemblablement, ils peuvent opérer la modification. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas de réponse là-dessus. Javier Herzi a simplement déclaré que c'était nul parce que ça a considérablement ralenti son film d'entrée, même si il atteint un très bon niveau, parce que c'est un très bon film. La presse a été très bonne. Et
vous
son actrice principale est géniale. Alors, moi, je ne suis pas là pour penser, Zabou.
Ça, c'est vrai.
Je suis là pour donner des faits. Non, mais je ne peux pas partir dans une conspiration.
Non, je sais bien.
Simplement parler de ce film aujourd'hui, c'est aussi une façon de dire allez le voir parce que c'est un très bon film qui n'a rien de pornographique.
Ah, c'est interdit aux moins de 18 ans quand même.
Non,
Et le film
m'a désolé.
Le film est quand même pénalisé, alors que vous le savez tous les deux, pour être des réalisateurs tous les deux, à quel point c'est du travail, à quel point c'est de l'engagement, et que une sortie, c'est décisif, c'est déterminant.
Et ça a mis deux semaines. Ils ont
deux semaines à modifier. Ouais.
C'est bien d'en reparler du film La petite dernière.
Que ce n'est pas du tout un film interdit aux moins de 18 ans.
Le film est toujours au cinéma.
Le film est toujours en salle. Il faut aller le voir. Et qu'est-ce qui vous, en tant que réalisateur, vous inquiète le plus à l'approche de la sortie d'un film? Qu'est-ce que serait la pire chose qui pourrait arriver avant la sortie d'un de vos films? Tous les deux, vous avez vécu j'imagine qu'il y a des dates, des événements dans l'actualité qui font que peut-être les fréquentations des salles vont en prendre un coup. Qu'est-ce que vous redoutez le plus?
Un attentat?
Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous avez rencontré à la sortie de vos films? Est-ce qu'il y a eu parfois des...
Moi, j'ai eu, par exemple, sur mon dernier film, l'avant-dernier, En effet pour s'entendre,
oui.
Notre camarade l'Omicron, qui est revenu en force. Et donc, on allait présenter...
Le Covid ?
Ouais, pendant le Covid.
Ah oui.
Alors, bon, moi, je me rappelle, sur le tournage, j'ai arrêté le jour de mon anniversaire, qui était le 13 mars. Merci.
On
y pensera.
N'importe quoi. Ouais. C'était aujourd'hui.
Non, parce qu'il veut qu'on l'invite.
Ouais, c'est ça.
À nouveau, le 13 mars.
Avant, oui, avant de rejoindre cette grande dame aux caresses glacées qu'on appelle la solitude. On avait arrêté le film pendant le Covid. C'était la première vague, le 1er novembre, le gros confinement. Et donc, j'ai arrêté en plein milieu du film. Et quand on a repris le film, on l'a sorti. Et à la sortie, il y a eu l'Omicron. Donc on ne savait même pas si les salles allaient nous recevoir. Ah oui. J'étais en Belgique, ils avaient fermé les cinémas. Oui, voilà, il y a ça.
Oui.
Et vous, Abou ?
Je ne sais pas, à part ce que j'ai dit. En général, quand on sort vers les beaux jours,
oui.
On a toujours peur du beau temps.
Eh oui.
On craint le beau temps. Mais on peut craindre également trop de pluie. Parce que les gens ne sortent pas non plus quand il pleut trop fort. C'est donc vrai. Il faut qu'il fasse moche, un petit peu froid.
Un peu froid.
Ouais. Un petit peu froid.
Ouais, ouais.
Et là, c'est pas mal.
Non, on est bien, on est bien en novembre.
Gris et froid, on est pas mal.
On est pas mal, normalement. En novembre, c'est bien pour ça.
Autre question, enfin, on va parler d'une exposition.
Oui, c'est vrai en plus.
Mais non, ne vous inquiétez pas. Une exposition au Palais de Tokyo, c'est gratuit, faut simplement réservé. Pour vous donner un indice du thème de l'exposition, je pourrais vous dire.
Ah oui.
Cyril Test. Alors, je sais pas si c'est un bon indice. On a parlé de Cyril Test, puisqu'il met en scène, karaoké de Raphaël au Bouffe du Nord avec Mélanie Thierry, notamment. C'est une exposition
qui sent bon.
Exactement. Bravo. Vous l'avez vu.
Je l'ai senti. Je suis allée sentir cette exposition. C'est extraordinaire.
Parfum, sculpture de l'invisible. C'est le nom de l'exposition qui est consacrée à Francis Kurkdjian, qui est un nez qui, depuis 30 ans, rivalise avec ses inventions olfactives, qui signe à son nom propre de très beaux parfums et qui signe aussi pour d'autres grandes maisons de très beaux parfums. Ce nez, donc, revient sur ses 30 dernières années avec des créations. Je parlais de Cyril Test parce que Cyril Test, c'est un metteur en scène qui non seulement est connu pour filmer en direct, monter, mixer, étalonner, il fait tout en direct avec ses équipes et son collectif MXM, mais aussi il a intégré dans ses spectacles une dimension olfactive. Parce que la vue, Louis, c'est important, mais finalement on délaisse un de nos sens alors qu'on pourrait l'exploiter. Il l'a fait pour Opening Night avec Isabella Gianni, il l'avait déjà fait avec Festen et il l'avait fait notamment avec Norma, l'opéra de Bellini, avec une diffusion dans l'enceinte de l'opéra, une fragrance déjà, pour renforcer la dimension émotionnelle des scènes, parce que ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Il proposait aussi une carte parfumée aux spectateurs, à eux, libre possibilité de sentir cette carte ou pas, avec là encore une façon d'étendre la scène, de se dire que ça dépasse la vue, ça dépasse le son, ça va au-delà et ça vient peut-être convoquer chez nous d'autres sensations qu'on n'aurait pas imaginées. Donc là, dans Norma de Bellini, il y avait une fragrance de nature, une sorte d'odeur de forêt qui allait bien avec le personnage, le côté druidesse en fait. Et c'était une façon là de dire que c'est un spectacle total, pourquoi oublier une dimension, celle de l'odorat.
Oui, on s'en excuse par avance, parce qu'on est complètement oublié qu'on l'avait oublié. En fait.
Il y a Anne-Sophie Pic aussi qui a fait des chocolats.
Sophie Kahl aussi.
Il y a plein
de choses à voir, c'est gratuit, c'est sur réservation. Je me dis qu'au cinéma, est-ce que vous pensez aussi avec les odeurs au cinéma?
Non.
Il va dire
je vais demander à Zabou. Ça, c'est un souvenir terrible, parce que je me rappelle la première fois que j'ai été invité à voir un opéra. Non, alors c'est trop court, c'est trop tard.
Alors, moi, je pense, j'y pense, parce que depuis que j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps, et j'ai retrouvé l'odorat. Voilà. Donc, effectivement, ça compte. Et j'ai adoré. Vous avez toutes les fragrances, vous avez tous les parfums, c'est magnifique. C'est magnifique.
Un super nez.
Zabou, on vous retrouve évidemment dans La Bonne Étoile ce mercredi, mais également dans La Comtesse de Monte Cristo, une série pour TF1. Et vous serez
le 1er avril
à l'affiche de Mauvaise Pioche 2 et avec Gérard Jugnot. Et quant à vous, Pascal Elbé, vous prêtez votre voix au chef Bogo dans Zootopie 2.
Zootopie,
oui, pardon. Pas
Zootopie,
ouais, c'est joli.
Dis-zou.
J'ai plusieurs Zootopies. Et vous tournez dans l'été 36, hein, vous êtes assez scotché. Ah. Hein, vous tournez dans l'été 36, une mini-série qui passera sur TF1. Très bien. En l'occurrence, le cinéma, c'est le 12 novembre, ce mercredi, La Bonne Étoile, un film formidable. Et j'ai envie de dire, vous êtes un mensch, mon cher Pascal, c'est-à-dire une personne admirable et digne d'être imitée, en tout cas. Des excuses à présenter.
Allez, bien sûr, désolé pour tous nos auditeurs, amis nazis, qui suite à l'anecdote foie gras, Troisième Reich et Art de vivre de Pascal Elbé, ont cru qu'on allait recevoir en invité surprise le maréchal Goebbels. Eh ben non, désolé, pas dispo, une prochaine fois peut-être pas. Nagui et lui sont, paraît-il, très amis.
Très.
Désolé pour notre spécialiste qui a été appelé Roland, Laurent, alors qu'il s'appelait Renaud. Bon, je l'ai vu tout à l'heure, à la peau, je l'ai croisé. En fait, il déconnait. C'était Smain. Désolé, enfin, pour tous ceux qui, après la chronique de Tanguy, voulaient savoir où s'inscrire pour la croisière et les filles avec Mathilde Panot et moi en spectacle. Alors là, non, c'est plus nous. Mathilde et moi, pour la croisière au Venezuela, c'est fini. En revanche, les réservations sont ouvertes pour la croisière Noël nu au soleil, avec en duo trapéziste exhibitionniste Pascal Elbé et Goebbels.
Merci Zabou Bretman, merci Pascal.
Merci
et surtout bravo pour la bonne étoile. Benoît Poulvorde et Audrey Lamy sont à vos côtés à l'affiche de ce film qui sort mercredi. Demain, c'est Lola Lafont et Pénélope Bageux qui seront nos invités. On parlera bande dessinée.